je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission du mercredi 29 janvier 2025. Le 16 octobre 2023, plus de 30 syndicats de travailleurs palestiniens ont lancé un appel mondial à l'aide. Mettez fin à toute complicité, arrêtez d'armer Israël. Ils nous appellent ainsi, toutes et tous, syndicalistes ou non, à refuser de participer à la production et au transport de matériel militaire destiné à armer Israël, mais aussi à agir contre les entreprises complices et à faire pression sur nos gouvernements pour que cesse tout commerce d'armement avec Israël. Le 11 septembre 2024, près d'un an après le début de l'offensive sur Gaza, la Fédération générale palestinienne des syndicats de Gaza a renouvelé son appel à une solidarité internationale et concrète. Ce mercredi 15 janvier 2025, un accord de cessez-le-feu a été trouvé après 15 mois d'une offensive génocidaire qui a fait au moins 45 000 morts selon les autorités palestiniennes et probablement plus de 70 000 selon le journal médical international reconnu The Lancet. Si le soulagement est immense, nos pensées vont vers celles et ceux qui n'auront pas survécu assez longtemps pour voir advenir ce cessez-le-feu attendu. Celles et ceux que l'armée israélienne a assassinés jusque dans ces dernières heures qui ont précédé cette annonce et même après. Nos pensées vont vers les blessés, les déplacés, celles et ceux à qui les bombes israéliennes ont tout pris, leur maison, leurs amis, leur famille. Enfin, nos pensées vont vers les travailleurs et travailleuses, les syndicats palestiniens, en particulier ceux de Gaza, à l'appel desquels nous nous efforçons de répondre depuis 15 mois. Aujourd'hui, dans cette émission, et pour faire écho à ce que nous venons de lire, on vous propose l'écoute d'une rencontre qui se tenait au Théâtre de l'Échangeur est organisé par le collectif Montreuil-Palestine le 18 janvier 2025. Le thème était « Artistes en résistance contre le commerce des armes avec Israël ». Et nous allons entendre une première partie, c'est un exposé sur les partenariats et ventes entre les entreprises d'armement françaises et israéliennes. Cet exposé était présenté par le collectif Stop Arming Israël France. Bonne écoute.
Donc, on va commencer avec une formation des partenaires et ventes entre les entreprises d'armement françaises et israéliennes. C'est donc une partie qui va être animée par Stop Arming. Donc les associations qui ont été à l'origine de cette initiative sont le collectif Montreuil-Palestine, Stop Arming, les amis du Théâtre de Liberté de Jenin, la CGT Spectacle et Sud Culture. Voilà, on aurait pu élargir, on aurait été contents. J'espère qu'il y aura d'autres initiatives où il y aura plus d'organisations et qu'on parle vraiment des artistes qui sont en résistance, qui sont réprimés, qui ne peuvent pas parler de la Palestine. Je pense que c'est un peu le débat aujourd'hui par rapport à la livraison d'armes par la France et par rapport à la résistance des artistes. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, je commence tout de suite. Moi, donc, c'est Loïc de Stop Arming Israël France. Donc, au départ, on vient de se créer. Et le 16 octobre 2023, du coup, il y a 15 mois, la quasi-totalité des syndicats palestiniens de Gaza et de Cisjordanie sont d'accord sur un texte. Donc, c'était 9 jours après le 7 octobre. En tant qu'effectivement, on s'appelle un texte aux syndicats et personnes de conscience du monde entier en disant dans vos pays qui vendaient des armes ou transportaient des armes à destination d'Israël, vous pouvez agir. Et donc on vous somme de le faire, notamment en refusant de produire des armes, en refusant de transporter des armes. Vous pouvez adopter des motions en ce sens dans vos syndicats. Vous pouvez agir pour retrouver ce complice et évidemment faire pression sur les gouvernements. Quoi. Donc vous avez mis, je ne sais pas si c'est visible, oui, donc vous avez tous les logos de tous les syndicats palestiniens qui ont signé, donc c'est un texte historique et vraiment unitaire pour le coup. Et immédiatement, des militants, militantes, activistes, syndicalistes de par le monde ont répondu à cet appel et donc ça faisait de différents types d'actions. En France, on a fait des manifestations, mais il y a pu y avoir effectivement des marches de photos des occupations de ports, notamment, je crois que vous voyez en bas, c'est les Australiens qui sont allés en jet ski pour bloquer les transports de marchandises ou de biens militaires vers Israël. Il y a eu également effectivement des rassemblements type piquet de grève de l'extérieur par des activistes, notamment en Angleterre, ça c'est le collectif Workers for Free Palestine, qui ont effectivement juste bloqué l'entrée des sites d'armement. Il y a eu plein de types d'actions possibles. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander est-ce que nous, en France, on est concernés par cet appel des syndicats palestiniens? Parce que c'est intéressant, quand nous on a commencé, en fait, mais y compris dans le milieu palestinien, en fait, la France n'a pas d'armes, votre campagne n'a aucun sens, vous faites autre chose, il y a autre chose à faire en France. Et c'est le discours aussi de Macron et le Cornu depuis le 7 octobre, la France n'a pas d'armes, c'est peut-être quelques roulements à billes, un peu d'oxygène, etc. Quoi. Donc du coup, nous, quand on s'est lancé, on a dû essayer de trouver les informations. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les ans, il y a un document qui est publié, c'est le rapport au Parlement sur les exploitations d'armes, qui vous fait vraiment un listing complet de tout ce qu'exporte la France à tous les pays du monde. Le problème, c'est, vous allez le voir tout de suite, c'est que le rapport est très précis et très flou en même temps. Donc si on va un peu dans les détails, vous le savez tous, que la France, depuis en moyenne, sur 10 ans, la France vend pour 20 millions d'euros d'armement à Israël, ce qui est infime par rapport à ce qu'on vend au Qatar, à l'Égypte, à l'Inde, etc. Ça, c'est pour les aspects quantitatifs. Ce qui est intéressant aussi, c'est les licences. Donc les licences, c'est quoi? C'est les autorisations du gouvernement. Donc quand vous êtes Safran ou Thales, vous devez vendre à un pays, vous devez demander l'autorisation à la France d'exporter, et la France accepte ou pas. Et bien donc, l'année dernière, en 2023, la France a accepté 75 licences d'exportation vers Israël. Le problème, c'est que ce qui contient une licence, on n'en sait rien. Quelle entreprise, quel produit, quelle quantité, etc. On n'en sait rien, c'est juste qu'il y a eu 75 licences qui ont été acceptées. Quoi. Donc ça, c'est juste pour ce qui est du strictement militaire, tout ce qui est ce qu'on appelle les biens d'usage, qui sont vendus par la France comme étant du civil, mais qui est utilisé par Israël comme du militaire, c'est 330 millions l'année dernière, c'est des sommes qui sont beaucoup plus importantes. Alors, ce ce qui est intéressant, c'est de se demander en fait, quelles sont les entreprises complices. Et quand on sait que la France est le deuxième vendeur d'armes au monde, et donc on va regarder un peu les 10 plus grosses multinationales françaises, ben, certes, parmi ces 10 plus grosses multinationales, ont des liens, pas forcément des ventes, mais des liens avec Israël. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de tous ces logos, toutes ces marques, donc Safran, Airbus, KMTS, qui est le nouveau nom de Nexter, Excelia, Thales, le groupe Dassault, MBDA, pour les missiles. Donc, toutes ces grosses boîtes ont des liens avec Israël. Et donc, à droite, vous avez les trois plus grands vendeurs d'armes israéliens, que sont Elbit Systems, IAI pour Israël Aerospace Industries et Rafael. Donc nous, on a sorti un guide, je vous reparlerai après, on a pu prouver ces liens. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, la France ne vend pas... Enfin, la France vend peu à Israël, elle vend des pièces de matériel, elle ne vend pas des matériels complets. Et pour vous dire tout de suite, par exemple, vous avez tous suivi ça, j'espère, Thales vend un système de radio, donc un transpondeur, qui est vendu à Israël, qui sert sur les drones Hermès, qui sont des drones de combat qui bombardent et tuent les gazamis. Donc ça, c'est au catalogue, et on a su cette année qu'en plus, Thales avait vendu deux exemplaires en janvier 2024, du coup, et les six qui étaient prévus à l'exportation en mai-juin. Donc ça, c'est des ventes directes de pièces importantes, parce que votre drone israélien, sans son système radio, il se fait dégommer tout de suite. Donc ces pièces qui sont vendues à Israël ne effectivement, sont pas létales, la raison de M. Cornu et M. Bacondir, c'est vraiment pas de pièces qui tuent, quoi. Mais par contre, ces armes israéliennes, si le matériel français n'est pas dedans, ne marchent pas. Hein. Un deuxième exemple qui est célèbre, c'est Excelia. Excelia, c'est, par rapport aux autres, c'est une petite boîte, en fait, c'est une grosse PME qui vend que des pièces détachées. Et ce que vous avez peut-être, en 2014, il y a eu cette opération bordure protectrice, je crois. Et donc, il y a une famille, Michou et Bar, qui, dont des enfants jouent au-dessus de l'immeuble, ils se font effectivement percuter et tuer par un missile. Donc, les trois enfants meurent. Et la famille a retrouvé dans les pièces une petite pièce comme ça, de cette taille-là, qui est effectivement un capteur de position. Donc, c'est quoi un capteur de position? C'est comme dans vos téléphones portables. Pour passer du mode vertical ou latéral dans un capteur de position. Dans le missile, c'est pareil, il faut qu'il y ait un capteur de position pour que le missile sache où il se trouve et pour que le missile sache où est le haut, où est le bas, où est la gauche, où est la droite. Et donc ce petit truc qui fait 1 cm, c'est une pièce française. Ça permet au missile d'arriver à bon port et de tuer les gens. Quoi. Donc sans cette vente d'Excelia, le missile ne fonctionne pas. Donc en fait, la France elle vend des pièces qui sont centrales pour que les armes tuent. Quoi. Donc, quand Macron dit on ne vend pas d'armes, en fait, mais en fait on vend du matériel qui, à la fin, permet à Israël de vraiment tuer. Quoi. Donc ça, c'est juste pour les ventes pures entre les boîtes françaises et Israël. Je vous donne quelques exemples pour montrer un peu comme c'est complexe. C'est qu'il n'y a pas que des ventes directes de la France. L'autre cas qui est connu, c'est que Thales a une co-entreprise avec Elbit en Angleterre, qui s'appelle UTAX, font du drone ensemble, et donc UTAX vend des drones complets à Israël, ou des pièces de drone à Israël. Donc à la fin, c'est Thales Angleterre qui vend, mais à la fin, l'argent revient à Thales France. Quoi. Mais c'est pas une vente de la France, c'est une vente de l'Angleterre. Okay, donc ça, il y a eu plein de cas comme ça, avec BDA par l'Italie, le matériel est acheminé en Israël, et après tout ce qui est auprès de co-entreprise, co-développement, recherche commune, etc. Donc en fait, il y a de multiples liens qui à la fin permettent soit aux armes fonctionner, soit c'est de l'achat, donc ça alimente la machine de guerre israélienne. Donc c'est tout ça, les ventes franco-israéliennes. Et sous cette base, on se dit, on va répondre à l'appel syrien palestinien, on veut agir. Donc on s'est créé quelques semaines après avoir reçu cet appel syrien palestinien. À la base, on est juste des militants syndicalistes ou des activistes, et on ne connaissait absolument rien à l'armement. Donc il y a un an, je ne peux pas vous faire cet exposé avec autant de simplicité. Quels sont les objectifs que nous, on cherche à atteindre? Déjà, c'est que, un, diffuser l'appel syrien palestinien, y répondre. On a effectivement fait connaître, donc ce soir, ça participe à faire connaître cet appel des syndicats palestiniens. On a fait tout le boulot de montrer que Macron mentait. Et on a fait choix de dire, en fait, les travailleurs d'armement et travailleuses de l'armement ont des multiples raisons de bosser dans l'armement ou groupe de bossés pour un employeur qui arme Israël, et nous on veut s'adresser à elles et eux pour qu'ils prennent conscience et qu'ils agissent, parce qu'on considère que c'est les travailleurs et les travailleuses qui ont le pouvoir d'arrêter les choses. Donc ils sont passés ce pari-là, qui n'est pas le, voilà, c'est un pari quoi, et donc, effectivement bon, le but c'est qu'on obtienne des victoires, qui est vraiment l'arrêt de toute relation d'armement avec Israël. Donc on a effectivement du coup fait beaucoup de recherches et produit matériel pour expliquer aux militants pro-palestiniens et au travers de l'armement un peu quelles étaient ses relations. Et on a plutôt demandé, enfin comme on voulait que ce soit les travailleurs qui s'emparent de cette question-là, on s'est plutôt adressé aux travailleurs plutôt que s'adresser au gouvernement. Ah oui, hyper important, le secteur de l'armement en France, ça c'est très abstrait pour tout le monde. Parce que, bon, de temps en temps, on dit, bon, cocorico, la France est deuxième en ordre d'armes au monde. Bon, ça fait la une des journaux une journée, on oublie la question. Donc, Thaïs, la France, etc., on les voit pas, on les connaît pas, on travaille pas dedans, donc c'est les boîtes sont invisibles, il n'y a pas de pub pour ces boîtes dans les trucs qu'on lit. Alors, une anecdote, je sais pas si vous lisez les magazines, ou si vous allez au cinéma. La télé, je ne sais pas, donc quand vous ouvrez n'importe quel magazine en papier glacé, vous avez toujours au moins 3 pubs pour des bagnoles. Vous allez au cinéma, vous avez une pub pour un parfum, la glace et une bagnole. Donc la bagnole, c'est effectivement hyper présent en France, et donc c'est les voitures, c'est 200 000 personnes qui travaillent dans l'industrie automobile. Et cette industrie à 200 000 salariés, elle est hyper présente et hyper visible. Par contre, il y a 200 000 personnes qui bossent dans l'armement, donc c'est autant d'automobiles, on ne les voit jamais, on n'entend jamais parler ces boîtes-là. Quoi. Donc pour dire qu'en fait 200 000 personnes, c'est énorme, et donc ça serait beaucoup de monde qui travaille et qui peuvent s'arrêter de travailler. Donc c'est à ces personnes-là que nous, on s'adresse en priorité. Quoi. Donc cet appel, effectivement, donc les syndicats nous disent, bah, il faut que les syndicats de Vobi, donc la France, prennent position et s'engagent et se bougent les fesses sur cette question de l'armement. Donc nous, on met tout un boulot de... faire connaître cet appel et faire prendre des positions à des syndicats. Moi, par exemple, je suis prof, je suis à CGT et je suis parti d'un réseau syndicaliste qui s'appelle Émancipation. Donc j'ai fait du lobbying dans mon syndicat pour que Émancipation prenne position et Émancipation a rejoint la campagne. Quoi. On a obtenu, alors c'est drôle, on a eu beaucoup au début des syndicats d'enseignants qui ont pris position pour dire ok, c'est une campagne importante, on va la faire. Je crois qu'on a eu la FSU, le SNES, le Sud Éducation. Pris position. Puis en janvier, on a eu toute l'Union syndicale solidaire, donc SUPDT, SUPRA, etc., c'est l'Union syndicale solidaire. Et plus récemment, donc, tout ça c'est en dehors de l'armement, on a eu la CGT Énergie Paris. Donc ça c'est un peu les premières prises de position syndicales hors armement, plutôt éducation, c'était assez drôle. Mais quand même, depuis juin 2024, on a eu deux prises de position extrêmement importantes. La première, c'est celle de la CGT ST Microelectronics. Pareil, ST Micro n'est pas connu grand public, mais c'est quand même coté au CAC 40. ST Micro, ils font des puces, etc. Et en juin, la CGT de ST a fait une lettre ouverte à l'employeur en disant « En fait, on ne sait pas si notre travail et si ST vend à Israël, donc on aimerait que notre employeur fasse toute la lumière sur ses clients et ses ventes. » Donc tout ça, il demande effectivement, donc si jamais il y a des ventes, qu'on les suspende, qu'il y ait une publication transparente des partenariats en cours avec des entités israéliennes, et effectivement qu'on arrête de travailler avec des intermédiaires qui en suspendraient à Israël. Quoi. Donc voilà, ST Micro, ce n'est pas une boîte d'armement, c'est une boîte qui fournit du matériel qui ensuite sert dans l'armement. Et en septembre donc, de cette année, donc c'est il y a 4 mois, on a obtenu que chez un des plus gros vendeurs d'armes en France, Thales, un des syndicats principaux, la CGT, prenne position. Donc la CGT Thales a dit « Nous voulons que notre employeur Thales rompe toutes ses relations d'armement avec Israël. » Ça, c'est extrêmement important parce que, en fait, c'est le seul syndicat de travailleurs dans le monde de l'armement qui a pris position en soutien au peuple palestinien sur ces questions d'armement. Donc, c'est le seul monde qui a fait ça, et c'est pas miraculeux, parce que nous, on a eu un travail de tracter tranché Thales, de discuter avec les syndicalistes, et à la fin, effectivement, ils prennent position. Ça montre que les travailleurs d'armement et leurs syndicats, ils sont tout à fait capables de dire, un, on soutient Palestine, deux, on est prêt effectivement à combattre notre direction, y compris qu'on bosse à l'armement, pour que l'entreprise arrête d'armer Israël. Quoi. Intelligent du commerce, on veut effectivement que les représentants du personnel soient consultés, on veut avoir un droit de retrait, en disant effectivement, on propose de bosser sur ce secteur-là de l'armement, avec tel pays, je refuse, et j'ai le droit de pouvoir refuser. Et ce qui est intéressant chez la société Thales, c'est qu'ils disent, On veut que tous ces ingénieurs, ces ouvriers, ces transporteurs, leur force de travail, leur intelligence, soient utilisés pour le civil. Qu'on a utilisé les ingénieurs pour détruire le monde, mais qu'on utilise les ingénieurs pour le réparer. Donc c'est pour ça qu'il parle de réorientation d'activité. Et effectivement, il faudrait idéalement que l'armement ne soit plus un secteur lucratif capitaliste et que ça serve à autre chose. Quoi. Donc, ça, c'est un peu pour les réponses syndicales à cet événement en France de l'appel des syndicats palestiniens. Ce qu'on a fait en tant que Stop Arming Israel France, on a dû effectivement prouver toutes ces relations. Et donc, en mars de l'année dernière, on a sorti un guide. Et ce guide, effectivement, donc, bah, c'est un peu un condensé de ce que je vous fais là à l'oral, mais donc il y a tous les chiffres. Et on a fait aussi une fiche par entreprise. Vous avez une fiche Thales sur laquelle il y a, on liste toutes les relations de Thales et d'Israël avec les liens soit vers le site de Thales, soit vers le site d'Elbit, de Thierry et de Raphaël. Quoi. Donc peut-être une petite anecdote, c'est que on se dit l'armement c'est complexe, on n'y comprend rien, etc. En plus c'est secret, secret défense, en fait c'est pas secret, l'armement c'est discret. Donc il y a ces petites nuances comme c'est important. Parce que c'est en même temps, là, il y a le côté secret défense et compagnie, donc on ne vous dit pas quels sont les contrats, mais en même temps, c'est comme ils font du business, et que faire du business avec Israël, c'est prestigieux. Bah, quand il y a un contrat signé avec Elbit, ils disent il faut un communiqué de presse pour dire Cocorico, on a signé un contrat avec Elbit pour leur envoyer des machins, des trucs. Et donc là, on retrouve sur le site de Thales ou sur le site d'Elbit des communiqués de presse. Donc nous, on a pu vraiment prouver, mais vraiment, enfin, pour 10 boîtes, au moins 30 relations d'armement françaises que nous avons prouvé, quoi. Donc vraiment, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de relation avec Israël. Donc voilà, on fait ce guide. C'est plutôt à l'usage de vous toutes et tous pour que vous puissiez un peu vous auto-former sur cette question-là. Voilà, on a tout un boulot de analyser sur un compte Macron, qu'on a fait des discours, ce que c'est vrai, ce que c'est faux, etc. On a tout un boulot de prise de position, d'analyse, de débunkage de ce que racontent nos gouvernants. Et effectivement, on fait des réunions publiques et on va effectivement tracter auprès des travailleurs d'armement. On a fait un truc pour que rendre plus saisissable cette question abstraite de cette boîte d'armement. On a fait une carte de France des sites d'armement en lien avec Israël, donc il n'y a pas tous les autres, français. Et donc on a mis une petite couleur par boîte. Donc je pense que en vert vous avez Safran, en rouge c'est Thales, en beau c'est Excelia, je pense, il y a Saint-Nazaire ici, etc. On peut faire Saint-Nazaire là. Saint-Nazaire est là, c'est une petite dédicace. On s'est rendu compte qu'il y avait au moins 100 sites de Safran, 100 sites Thales, et qu'en fait, dans n'importe quelle ville moyenne de France, il y avait au moins un des deux près de chez vous. Donc, pour vous montrer que c'est facile de trouver un Safran ou un Thales près de chez vous, et spécialement pour ce soir, j'ai une petite carte de l'Île-de-France en bas à droite. Donc, Bagnolet est juste là, et donc vous avez par exemple l'entreprise Excelia qui est ici, et du côté du Bourget et du Nid, vous avez des sites de Dassault, Safran, etc. Donc, je ne sais pas d'où vous venez, mais en tout cas, pour juste dans l'ouest parisien, vous avez déjà au moins 4 sites que vous pouvez visiter. Les étudiants se sont rendus compte que beaucoup de facs, beaucoup d'écoles d'ingénieurs et de grandes écoles avaient des liens avec, des écoles israéliennes, mais deux, des boîtes d'armement françaises. Vous avez vu que les étudiants se mobilisent aussi pour la rupture des partenariats. Quoi. Ça, vous l'avez fait courte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on est né, là, il y a un an, quand on était des petits bébés, on faisait un peu des actions coup de poing pour nous faire connaître, pour faire connaître la Palestine et les Palestiniens, ennuyer les directions d'entreprise et se faire connaître des travailleurs d'armement. Et donc, on allait faire des happenings devant Dassault Aviation, devant le siège de Thales, devant le siège de Safran Défense, etc. Pour l'anecdote, bon, on n'est pas venu là pour vous vendre ça ce soir, on pense qu'on va vraiment discuter avec un armement, mais dans les modalités d'action, on a bloqué un salon de l'aérospatial. Parce qu'on a compris en fait que l'aérospatial, c'est militaire aussi. Donc là, il y avait un salon qui devait avoir lieu, où il devait y avoir des rencontres entre militaires et les grandes pontes ou les commerciaux de l'armement, du coup, et on s'est foutu à 15 devant le site, hop, et personne ne rentre toute la matinée, et ils ont trouvé personne pour nous déloger pendant 4 heures. C'était une action impactante, on a vraiment empêché les dîners d'affaires entre les militaires et les commerciaux d'armement, c'était une action plutôt réussie. Mais tout le cœur d'activité, et c'est ce sur quoi c'est de nous convaincre de nous rejoindre, c'est vraiment de tracter auprès des travailleurs, travailleuses de l'armement. Pourquoi? Les travailleurs, travailleuses de l'armement, donc bossent dans l'armement, ou travaille pour un employeur qui fait de l'armement. Quelle est la différence? Safran, par exemple, fait en gros 50% de moteurs pour du civil, 50% de moteurs pour du militaire. Et donc, il y a plein de salariés de Safran qui disent bah, « Moi, je bosse dans l'aviation civile et mon employeur, mon chef, tous les ans vont me dire « Ça serait bien quand même que tu passes sur la branche militaire, je refuse. » Donc, il y a des, donc ces entreprises-là ont différents champs d'activité, dont du civil, et il y a beaucoup de salariés qui choisissent de rester délibérément dans le civil. Ça, c'est une partie de ces salariés. L'autre partie, en fait, c'est les ingénieurs, donc ils font des calculs, des fractions, des équations, ils bossent avec un projet égyptien, ils bossent sur un laser, ils bossent, donc chaque, tout ces, toute cette main d'œuvre, ils bossent sur des micro-projets, des projets, etc., ils n'ont pas de tout ensemble. Et je sais pas, Thalès a 70 clients dans le monde, évidemment, les salariés ne connaissent pas la liste des 70 clients. Quoi. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut que ces salariés sachent sur un petit segment qui est « Est-ce que votre boîte a des liens avec Israël ?» Donc là, vous voyez, on allait tracter devant le Airbus à Elancourt, en disant effectivement, votre employeur, pas vous, Airbus, est complice du génocide en Palestine, et donc on leur donne des liens. Et du coup, ça frappe vraiment les salariés, parce que eux, les salariés, parfois, ça ne savent même pas qu'ils bossent dans un armement, ils bossent dans la défense. C'est la même chose, et ils ne savent pas que leur employeur bosse avec Israël, et en fait, il y a beaucoup de salariés, ça les choque. Et il faut vraiment se rendre compte que les salariés d'armement, il y a beaucoup, ils viennent juste là pour bouffer, parce que quand tu as fait l'école d'ingénieur, et ben, le 90% des employeurs, c'est la défense, c'est des boîtes de haute technologie, c'est des boîtes de sécurité, en fait, c'est la même boîte, tout ça, d'accord. Donc eux, voilà, ils sont embauchés là-dedans, ils pensent bien faire, ils ne connaissent pas les clients, du coup on s'est dit, bah écoutez, nous on va vous obliger à vous regarder dans un miroir et sachez que votre employeur, lui, a décidé, malgré le génocide mené par Israël, de continuer de développer ses partenariats. Donc avant ce boulot de conscientisation des travailleurs d'armement et travailleurs de l'argent. Et ce qui est intéressant, c'est un peu tout le spectre de réactions qu'on peut obtenir. Donc, on a une minorité qui est hyper hostile. On a une autre minorité qui nous disent « Mais moi, en fait, tous les samedis, tous les dimanches, je vais au Manif Palestine. » Donc on a des travailleurs de l'armement qui sont des militants pro-palestiniens. Donc on a un peu ce spectre-là. Et entre les deux, il y a quand même beaucoup... Enfin, les salariés nous remercient, nous prennent notre acte, nous demandent comment on peut agir. Donc il y a vraiment un questionnement sur « Effectivement, je sais que c'est pas bien. Donc moi j'ai envie d'agir individuellement sur les questions d'armement et comment faire, etc. » Donc on nous dit « Tu peux en parler. Parle-en déjà avec tes collègues. » Parce que dans l'armement, on ne parle pas d'armement, on ne parle pas de vente d'armes, donc c'est un tabou de parler de boulot en réalité. Donc du coup, on dit, écoutez, juste provoque des discussions avec tes collègues, et tu vas te rendre compte que tu n'es pas seul. Parce qu'en fait, dans cette boîte-là, tu es la 15e personne bien que tu es tout seul. Donc il y a tout ce truc de, nous, on s'occupe de récupérer les contacts, les mails, les numéros de téléphone de l'armement, on nous en donne, et on les met en lien maintenant entre eux pour qu'ils puissent s'organiser et prendre conscience de leur force. Quoi. Plus tout le boulot qu'on a avec les syndicats de l'armement. Nous, on trouve une réaction très très bonne des travailleurs de l'armement, une réaction très mauvaise des directions de ces entreprises. Et donc, on s'est rendu compte que, donc un tractage je crois, de 3-4 personnes, 12 parfois, on est juste, vous voyez, on est juste là à l'entrée de Thalès, avec la voiture rouge, on file des tracts, c'est bon enfant, quoi. Là, en bas, c'est la navette qui, avec moi, on n'est pas méchant, là, c'est. Voiture, bref, oui, c'est un tractage, ça fait toutes les semaines, c'est juste un tractage, mais c'est juste un tractage dans une boîte qui vend Israël, et du coup, les directions d'entreprise, statiquement, appellent la police, et donc on a parfois la police municipale qui vient, puis la police nationale, parfois aussi les deux, donc il faut un contrôle d'identité pour vérifier qu'on n'est pas en cavale ou autre, quoi, mais c'est quand même un petit coup de pression. On a les renseignements territoriaux aussi qui régulièrement viennent pour noter un peu où on est le tractage, est-ce que les salariés, comment est-ce qu'ils réagissent, etc. Donc il y a une vraie inquiétude de la part des préfectures sur l'adhésion à notre campagne des salariés de l'armement, donc on a ça, et on a aussi du coup les directions d'entreprise qui mettent en place plein de dispositifs pour éviter que cette jonction, ce dialogue ait lieu. Alors dans les trucs les plus caricaturaux, on est venu à Versailles, KNDS, donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on annonce à l'avance qu'on arrive. Donc comme ça, tout le monde est au courant. Donc Versailles, à KNDS, on dit, écoutez, on a besoin de jour, c'est public sur les réseaux sociaux, etc. On se pointe, pas un clampin à sortie de l'entreprise, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, l'entreprise avait fermé les grilles de la boîte, et du salarié, écoutez, attendez que les gens qui tractent se cassent, et vous sortirez à ce moment-là. Donc au bout d'une demi-heure, on n'était pas parti. Donc, du coup, l'entreprise a pu libérer ses salariés. Et en fait, ça vous montre que les boîtes ne veulent vraiment pas que les salariés aient une discussion avec eux. Parce que comme le tractage est légal, on ne peut rien faire, ça part après les flics qui peuvent dire, bah, écoutez, on va faire votre identité, puis bonne journée monsieur, puis voilà. Donc, très mauvaise réaction. Vous avez en bas à droite, on ne faut pas tout lire, vous lire au moins les premières lignes. Ça, c'est donc systématiquement, quand vous détractez à l'avance, l'entreprise écrit un mail à tous ses salariés pour leur dire attention, demain, tout à l'heure, des militants de Stop Arm Israël vont venir tracter, ne leur donnez aucune information et s'ils sont, ne répondez pas à leurs provocations et en cas de problème, vous pouvez contacter effectivement le chef de la sécurité, etc. quoi. Donc nous, quand on distribue 400 tracts, vous pouvez avoir 4000 salariés qui reçoivent un mail pour dire qu'il y avait Stop Arm Israël qui venait. Et il y a même une fois, c'était Safran, qui ont dit bah, c'est Stop Arm Israël, France, ils répondent à l'appel des syndicats palestiniens, ils sont pacifistes, leur parlez pas. Donc en fait, le salarié a toutes les infos pour aller chercher qui on est, etc. Donc, ils sont même très... Donc voilà, pour vous dire qu'il y a une surréaction de ces boîtes d'armes, donc on sent vraiment qu'on est utile parce qu'après un tractage, tu as 400 salariés qui ont fait rentrer le tract dans l'entreprise, la boîte a mobilisé. Tous ces agents de sécurité, le chef de la sécurité, etc., envoyer des mails, etc., ça crée vraiment de la tension. On a juste tracté une suite de Palestine, etc., énormément. Quoi. Donc, bah, pour vous dire que sur nos réseaux sociaux, vous pouvez, donc nous, on a tout mis à disposition. Hein, donc, nous, la carte est à disposition. Vous pouvez télécharger notre guide. Et pour chaque boîte, on a un tract spécifique qui dit aux salariés quels sont les liens avec l'entreprise d'armement. Quoi. Donc, vraiment, tout est à disposition.
Les pas deviennent lourds. Les jambes ne suivent plus, voient ses frontières, l'horizon s'étale en continu. Hypocrisie, parle des droits de l'homme à la terrasse d'un yacht, sous le soleil de midi. Quelle justice, c'est une purge, quand ceux qui exécutent sont aussi avocats et juges. Blâme qui persiste sur cette terre qui t'a vu naître, vivre est un acte terroriste. Mais c'est plus fort que toi, y'a cette voix dans un coin de la tête du disque qui t'y résiste. Les balles sur toi n'ont qu'à se loger, le renoncement est une mort si amère, plus dur à porter. Résister, c'est avant tout exister, cette soif de liberté pour chaque soupir expiré, cette fierté dont le plus grand des malheurs te pousse à relever la tête devant tes oppresseurs d'égal à égal. Au moins, ils ont en face des êtres humains, non pas des chiens, qu'ils ont en face des pères, des mères, de famille au pied d'un mur, des gosses ne rêvant que de conjuguer leur vie au futur. Ils croient éteindre la flamme d'une bougie, mais regardez nos cœurs, c'est un incendie. Oh combien monte le courage de ce peuple, refusant de s'agenouiller devant la troisième armée du monde.
Paris Pluriel, 106.3 FM jusqu'à 13h30. Vous êtes à l'écoute de l'actualité des luttes et nous poursuivons l'écoute de cette rencontre artistes en résistance contre le commerce des armes avec Israël qui se tenait au Théâtre de l'Échangeur ce 18 janvier 2025. Et il était question du partenariat entre les entreprises d'armement françaises et israéliennes et cette présentation était assurée par le collectif Stop Arming Israël France.
Dans les facs, les boîtes d'armement ont des partenariats, elles financent et elles font des salons de l'emploi. Donc je sais pas, mercredi prochain, il y aura 15 entreprises qui sont invitées avec leurs petits stands, et puis comme ici, des boîtes d'armement. Ouais, et puis donc, les étudiants sont appelés à faire le tour des stands pour essayer de trouver leur futur employeur. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, il y a toujours Safran, Thalès qui sont là, qui sont invités, qui sont prêts pour avoir un stand. Et donc nous, on est, certains comités étudiants nous ont contactés, et ensemble, grâce à la puissance des réseaux sociaux, on fait des publications communes, deux jours avant, un petit tractage la veille, et hop, l'entreprise annule sa venue parce qu'elle se sent en danger, etc., elle se fait agresser, quoi. Donc plusieurs fois, même quatre fois cette année, enfin quatre fois sur un an en tout cas, des entreprises d'armement ont annulé leur venue. Et le plus beau, c'est à Rennes 1, il y avait une journée en septembre où toute la journée, les étudiants licence 1, licence 2 d'informatique devaient avoir chaque heure un intervenant de l'entreprise privée pour venir présenter le truc. Je sais pas, à 9h, vous avez Orange, à 10h, vous avez ADP, à 11h, vous avez Thalès. Et bah, donc une campagne des étudiantes et étudiantes de Rennes pour faire annuler la venue de Thalès. Thalès a effectivement annulé sa venue. À la place, ils nous ont invités pour faire une réunion de ce type-là. On a pu virer Thalès et faire la place pour une réunion Storm Israël. Quoi. Ça, c'est au niveau étudiant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que donc nous, on a fait quand même campagne de novembre, et vous aussi, on partait de novembre jusqu'à fin mai, début juin, quoi, de façon intensive. Donc en plus de tout ce qu'on faisait actuellement, donc des tractages, des manifestations, on faisait des réunions de formation tous les dimanches soirs, réunions publiques, réunions privées, on a en plus découvert que Israël devait venir à Eurosatory. Eurosatory, c'est le plus grand salon mondial de l'armement, et il a lieu à Villepinte tous les deux ans. Et donc cette année, il devait y avoir 74 stands qui étaient programmés. Donc nous, on va faire une campagne unitaire nationale, depuis les 180. Donc 180 organisations signataires, et on a fait 3 mois de rassemblement, phoning, tractage, rassemblement devant le ministère, poursuite judiciaire, on a aussi utilisé nos députés pour aller enquiquiner le camp nu et compagnie, et effectivement, pour ces campagnes, on a obtenu qu'il n'y ait aucun stand israélien durant tout ça. Donc du coup, ça c'était une première, parce que effectivement, c'était le plus grand salon mondial de l'armement, voilà. Israël comptait dessus pour effectivement faire un étalage de ces produits testés sur ces cobayes que sont le peuple palestinien. Et ça, ça n'a pas eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que certes, c'est juste, c'est du show un peu ces salons, mais en même temps, c'est concret parce qu'on va annoncer des signatures et compagnie. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait un élu à l'Assemblée nationale, Meir Habib, effectivement, vous avez dit, ah oui, ça c'est annoncé, et il tweet un long message pour dire j'ai eu Netanyahou au téléphone, Netanyahou est furieux, c'est une trahison de la France ne veut pas qu'Israël se défende, c'est une victoire de la gauche ou de l'extrême gauche, etc. C'était donc Netanyahou l'a vraiment mal pris, c'est tout cas, les boîtes israéliennes comptaient vraiment être présentes sur ce salon. C'est une vraie victoire, et d'ailleurs, dans les relations France-Israël encore aujourd'hui, Netanyahou rappelle à Macron que ses stands ont été annulés à cause de lui. Notre petite campagne a augmenté les tensions entre Netanyahou et Macron, ce qui est une petite contribution. Quoi. Et à la même période, Macron a décidé de bloquer notamment les petits transpondeurs dont je vous parlais tout à l'heure de Thalès. Ont été effectivement bloqués à la frontière. Bon, ça, c'est une décision de Macron, enfin Macron et toute sa team et ses machins, ces trucs, quoi. Sauf que Macron l'a pas annoncé, Thalès l'a pas annoncé et Elbit l'a pas annoncé non plus, quoi. Donc c'est emmerdant parce qu'on a obtenu le fait qu'il y ait moins d'exportations vers Israël d'armement. Donc c'est une vraie aide pour le peuple palestinien, sauf que personne ne le dit. Donc parfois, c'est chiant parce que c'est-à-dire qu'on a obtenu une victoire, mais notre adversaire ne l'a pas dit. Ça, c'est vraiment, c'est une leçon de vie, quoi. C'est que tous les jours, on s'active, voilà, on organise des réunions publiques, on organise des tractages, des manifs, des rassemblements, on tente de pédaler dans la semoule, qu'il n'y ait pas de réaction, d'être toujours fatigué, etc. Et tout le monde dit que ça sert à rien, ton truc, Macron s'en fout. En fait, non, Macron s'en fout pas, Carrefour s'en fout pas, la BNP s'en fout pas, Thalès s'en fout pas, c'est des coups qu'on leur met dans la tronche à chaque fois. Et je pense que jusqu'au dernier jour, Thalès dira « je vendrai des armes à Israël » et dès le lendemain, il pourra annuler le truc, quoi. Donc, pour dire qu'effectivement, on l'a su deux semaines plus tard parce que Disclose a révélé que, via diverses sources, notamment douanières, qu'il y a eu un ordre de bloquer les transpondeurs à la frontière, donc on l'a su après coup. Donc, il ne faut pas désespérer, se dire « tout ce qu'on fait, c'est utile, on porte des coups, et peut-être que parfois au terrain des victoires directement, parfois on saura après, mais tout ce qu'on fait est extrêmement important. Quoi. Nous, on n'a pas vocation à dire aux comités locaux quoi faire. C'est une campagne qui, à Saint-Etienne, est faite par BDS, qui, à Grenoble, est faite par l'UP, qui, à Lille, est faite par la FPS. Donc nous, effectivement, c'est une boîte à outils, on vous donne des ressources pour vous former sur ces questions-là. Et donc, vous aide effectivement à rejoindre cette campagne. Et juste pour vous dire, comme petite perspective, jeudi 30, donc c'est dans deux semaines, il va y avoir une journée nationale d'action qu'on a un plus avec plein de comités locaux dont je vous ai cité. Le but, c'est qu'on tape tous le même jour sur des boîtes d'armement en distribuant des tracts, se rassemblant, ça c'est votre discrétion. Donc ce moment, je vous remets quand même en plus gros la carte du coin pour vous dire que vous êtes quand même en mauve là, vraiment c'est à côté de Bagnolet, donc c'est le siège de Texelia qui évidemment fournit encore aujourd'hui des pièces pour le F-35 américain et des pièces à l'armement israélien. C'est vraiment à côté, donc si vous voulez les tracter au salarié du siège, c'est super, sinon vous avez le Bourget, du lit, etc. Quoi. Voilà, juste pour vous dire un mot, peut-être ça reviendra dans la conversation qu'on avait ensemble, mais nous, vraiment, bon, on salue que un cessez-le-feu ait été signé, on espère qu'il va tenir. On sait que, de toute façon, Israël va tuer jusqu'à dimanche midi, ils vont continuer de tuer un maximum de monde. L'action, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait après. En général, après chaque opération d'Israël, les ventes d'Israël explosent en termes d'armes. Donc après 2009, les ventes ont explosé. Après 2014, nouveau record. Et là, on s'attend à ce que plein de pays aient envie d'acheter du matériel israélien, parce qu'on a prouvé effectivement être vraiment létal. Et donc du coup, il y a aussi le moment où Israël rachète du matériel pour préparer le prochain génocide. Quoi. Donc ce cessez-le-feu, c'est... Bon, personne ne dit ça, donc c'est pas le moment d'arrêter de se mobiliser. C'est un moment où il faut être encore plus vigilant, encore plus actif sur cette histoire, parce que c'est vraiment le moment où Israël vend plus d'armes que d'habitude. Quoi. Voilà, je vous remercie.
Je vous remercie pour votre exposé, très intéressant. Vous avez à un moment abordé la question de la sémantique. Et pour moi, la sémantique, le combat sémantique, c'est le premier des combats militants. J'ai comme doctrine, depuis quelques années, de ne jamais utiliser la sémantique de mon adversaire. Bon, notre adversaire, là, c'est d'abord les vendeurs d'armes, les génocidaires aussi, on parle plus des ventes d'armes. Hier, je suis allé, on était une petite cinquantaine de personnes, incluant la presse, à la réception de Ariane Lavrieux, qui a été inculpé pour avoir attaqué des secrets défense. Et en fait, il s'agit d'une enquête qu'elle a faite dans Disclose, dans laquelle elle a mis en cause la France, qui a livré des matériels à l'Égypte, soi-disant pour la défense, et en fait, ces matériels ont servi à la répression, et je pense qu'il y a eu des morts, peut-être pas mal de morts, en Égypte, grâce à ce matériel soi-disant de défense. Donc voilà, je pense qu'il faut bannir la terminologie de notre adversaire, des marchands d'armes et des producteurs d'armes. Il faut parler de matériel militaire. Parfois, il peut servir à la défense du pays, pourquoi pas. Il y a le renseignement qui peut servir à la défense nationale. Mais souvent, il s'agit de vente d'armes, d'autant plus qu'on vend, on est un très gros producteur d'armes, c'est absolument fantastique. Et donc, voilà, moi, je pense qu'il faut abandonner leur terminologie, il faut avoir la nôtre. Ils vendent du matériel militaire et on peut ajouter qui sert à un génocide, qui sert à la répression, etc. Voilà, c'est tout, merci.
Oui, mais effectivement, je vais même vous séduire parce que, comme on dit, toute leur propagande tout le temps, c'est dur de s'en défaire. Mais bon, Thales est une entreprise de haute technologie. Et donc effectivement, entreprise de défense parce qu'il y a une menace, donc il faut se défendre. Donc, mais effectivement, ils font du char, du missile, du drone, etc. Donc oui, ce sont des entreprises d'armement, des entreprises militaires, c'est des vendeurs de canons, pour revenir à des vieux trucs de, ouais, il y en a marre des vendeurs de canons, quoi. Même si aujourd'hui c'est plus des canons, c'est des rafales, mais oui, notre adversaire. Oui, il y a une bataille sémantique aussi, donc oui, c'est bien des armes offensives en fait, quoi. Un missile, ça, c'est toi qui tires vers un autre, donc c'est bien que tu tires, quoi. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour cette remarque.
Bonsoir à tous et merci Loïc. Je vais reprendre exactement ce que j'ai dit la dernière fois. Il doit y avoir un mois et demi à Créteil pour là encore sur la famille. Comment dis-je la famille ?
Chouéba.
Voilà, c'est exactement la même chose que j'ai dit. Il y avait cette petite vidéo de. Comment il s'appelle ? Anthony Lowenstein qui a écrit le Palestine Laboratory et le sous-titre Comment Israël exporte les technologies de l'occupation à travers le monde. Et la petite vidéo de 2 minutes, il dit ceci, que pendant cette guerre à Gaza, Israël utilise des armes interdites, biologiques, létales, qu'elle essaye sur les Palestiniens. Elle ne rend pas les corps, elle garde les corps pour vérifier qu'elle ait fait ça. Et puis elle fait des analyses, des études pour savoir exactement tel type d'arme fait tel type de dégâts. Elle établit des espèces de tableaux et elle saura exactement quoi exporter pour chaque demande. Deuxième chose, c'est la dernière. Aux États-Unis, les gens sont très mobilisés. Je regarde des choses sur, par exemple, ce qui se fait aux États-Unis. Les gens sont très remontés sur le futur ministre de la Défense de Trump, Pete Hegseth. C'est un évangéliste sioniste très dangereux. Et il parlait à des gens en leur disant il y a une crise du recrutement. Et les gens réagissaient très fort. Ils se faisaient embarquer par les flics et tout. Ils disaient il n'y a pas de crise de recrutement. Vous êtes en train de consacrer des milliards pour génocider des bébés. Et nos vétérans militaires sont dehors, sans abri, se suicident et sont dans des problèmes. Voilà.
Merci beaucoup. Effectivement, juste sur cette question de laboratoire, c'est que donc il y a une entreprise génocidaire de la part d'Israël. Bon, donc ça c'est un premier truc. Mais en même temps, il y a cet aspect de rendre laboratoire. Et c'est fou parce qu'il y a vraiment plein d'armes qui ont été inventées et affinées au cours des guerres, quoi, entre guillemets. Et il y a vraiment ce truc de oui, les Palestiniens servent de laboratoire aux armes israéliennes pour les. C'est vraiment un truc, c'est affreux, parce qu'en fait, si vous êtes vendeur d'armes, vous avez beau faire le meilleur missile du monde, si c'est juste théorique, si c'est juste testé dans votre champ de patates derrière chez vous, ça ne marche pas. Bon, si l'armée l'a utilisé, là, effectivement, dans un cadre en situation réelle, là, vous dites les combats prouvent, et là, ils se vendent. C'est vrai que la France a besoin notamment d'avoir tout l'espace africain pour ses sales guerres, mais aussi pour tester et faire la démonstration de la beauté et de la puissance de ses armes. Et bien, le rapport Israël-Palestine, c'est pareil. Israël a aussi besoin, l'industrie armement israélienne a besoin des Palestiniens pour utiliser comme cobayes, quoi. Donc, c'est pour ça que les salons à venir sont importants, parce que Israël va essayer d'en profiter pour montrer ses nouveaux produits, où on va apprendre que telle escouade a testé tel nouveau pistolet fait par telle entreprise, etc. Ça, on va savoir bientôt qu'ils vont devoir faire la publicité, quoi. Enfin, je vous remercie.
J'aimerais savoir la position des autres fédérations par rapport à ce. Merci d'abord pour votre travail est étonnant et depuis un an extraordinaire. Oui, donc j'aurais aimé avoir l'avis des autres fédérations syndicales sur ce tracteur et les raisons pour lesquelles elles n'ont pas rejoint le mouvement. Et la seconde chose, je voulais savoir si vous aviez fait un travail équivalent à ce qui a été fait en Israël par une anthropologue canadienne qui a démontré que la majorité des universités israéliennes étaient financées par l'armée et par les entreprises israéliennes et qui ont participé en tant qu'universitaires, qu'elles soient de gauche ou de droite, ça n'a rien à voir, à la domination palestinienne et en particulier à l'apartheid. Est-ce que ce travail a été fait en France? Est-ce qu'on a une idée réelle de l'implantation militaire dans les universités et le budget qu'elle consacre?
Eh oui, alors, deux questions hyper concrètes, hyper compliquées. Au niveau des syndicats, nous on a écrit à tout le monde, tous les syndicats, toutes les fédérations, voilà, tout le monde, quoi, les UD, les UA et compagnie. Ce qu'on a obtenu depuis la Saint-Valentin de l'année dernière, c'est qu'il y a quand même beaucoup de partis et syndicats qui disent l'arrêt des ventes d'armes, ils mettent embargo. Donc ça, c'est quand même important que ça apparaisse dans leur liste de revendications, qui sont l'embargo de l'arrêt des ventes d'armes avec Israël. Par contre, des prépositions claires sur où on veut que, on rejoint la compagnie d'Israël ou on répond à l'appel syndical palestinien, on a eu très peu de réponses, quoi. Bah, là, je pense que l'armement, ça fait peur déjà, donc on ne peut pas trop y toucher. Et puis après, je pense qu'on n'est pas assez encore nombreux pour mettre assez la pression pour les obliger à prendre position. En gros, si vous êtes syndiqué et votre syndicat n'a pas pris position, bah, c'est le moment de reprendre leur faire prendre position. Quand même, là, il y a des ventes d'armes, il faut que la France arrête de collaborer à ça. Je pense qu'il y a des désaccords sur cette campagne, quoi, et qui ne sont pas dits. Donc voilà, et on sait que pour d'autres syndicats, c'est juste que c'est long de faire prendre position. La CGT, c'est quand même. Du printemps jusqu'à l'été, c'est 4 mois de discussion interne à la CGT Thalès pour essayer de faire une prise de position nationale de tous leurs syndiqués. Donc, il y a aussi des lenteurs démocratiques qui sont très bien. Donc, on espère que prochainement, d'autres syndicats d'armement prennent aussi position. Sur la question du lien université, grandes écoles, école d'ingénieurs et industrie d'armement, on est en train de faire des recherches là-dessus, mais en gros, toutes les écoles d'ingénieurs publics ont des liens avec au moins une boîte d'armement. Les grandes écoles polytechniques, elles ont des liens avec toutes les boîtes d'armement. Et toutes les facs de sciences ont des liens avec au moins Safran ou Thalès. Voilà. À la louche, c'est ça les ratios. Après, voilà, c'est les liens, ça peut être on finance un poste de doctorat, on finance un projet de recherche, on finance. Il y a un labo. À Saclay, c'est un labo CNRS Thalès. Alors je ne sais même pas quand c'est possible qu'un labo public ait un trait d'union avec Thalès, mais ça existe. Donc c'est un peu multiforme, mais à la fin c'est quand même du free, des postes, de chercheurs, de doctorants, etc. Pour l'instant on n'a pas encore une vision, des budgets, tout ça, on ne sait pas encore, mais les recherches sont en cours, on espère pouvoir communiquer prochainement là-dessus. Quoi.
Oui, bonjour, merci infiniment. J'avais une question en ce qui concerne Eurosatory. Le problème d'Eurosatory, et ça je voudrais, si possible, des éclaircissements, cette victoire a été obtenue, si je me souviens bien, de façon légale, et ensuite, qui a donc interdit, si mes souvenirs sont bons, à Israël de présenter ses systèmes d'armement, et que ensuite il y a une autre action légale qui a permis aux Israéliens de rentrer dans l'exposition. Est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ces actions légales et qui a initié ces actions légales qui ont mené à Eurosatory?
Bonsoir. Je fais aussi partie du collectif Stop Arming Israël France et effectivement j'ai peut-être un peu plus suivi que Loïc tous les tenants et les aboutissants de la situation Eurosatory. Donc ce qui s'est passé avec Eurosatory, c'est qu'on a mené plusieurs mois de campagne vraiment populaire, de phoning, de manifestations et avec aussi une pression juridique, mais c'est un ensemble d'actions qui a permis d'obtenir que fin mai, en fait, avant le salon, le gouvernement a pris une décision qui était d'interdire l'exposition, d'interdire aux entreprises israéliennes d'exposer dans ce salon. Et donc c'était vraiment la revendication centrale à la base de la campagne « Aucune arme israélienne à Eurosatory 2024 ». Donc on a vraiment obtenu que le gouvernement prenne cette décision, sans bien sûr dire « c'est parce que les militants m'ont demandé », mais ils ont donc pris cette décision d'interdire l'exposition d'armes israéliennes à Eurosatory 2024. Et donc ça, c'était fin mai. Et effectivement, en plus de cette demande-là, il y a eu une action judiciaire qui a été faite par une coalition d'organisations de juristes et non-juristes qui était regroupée dans un groupe de travail pour demander de faire une action, en référé, c'est des trucs un peu juridiques spécifiques, mais faire une action en référé pour que dans ce salon soit non seulement interdit les exposants d'armes et les stands israéliens, mais qu'en plus il y ait des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'en plus il n'y aurait pas de personnel de ces entreprises ou de personnel politique israélien qui pourrait venir pour en plus faire des échanges commerciaux dans ce salon. Donc c'était une demande supplémentaire qui, elle, a été en première instance au tribunal de Goubini acceptée. Et donc effectivement, pendant les premiers jours de Rosatory, il n'y a eu non seulement aucun stand, mais en plus aucun personnel de ces entreprises, aucune délégation politique. Il y a vraiment à l'entrée, enfin il y a eu plus de 800 badges d'entrée annulés, il y a eu à l'entrée, ils devaient signer un papier pour dire que vous n'allez pas faire du commerce pour le compte d'Israël pendant ce salon. Mais bien sûr, quand ça a été accepté, en plus on n'avait donc aucun stand israélien qui était autorisé, il y a eu une contre-attaque juridique de l'autre côté par des avocats sionistes pour le compte d'entreprises israéliennes. C'est non seulement, il y a eu deux choses en parallèle, il y a eu à la fois un appel sur la première version du tribunal et en plus une attaque dans une autre cour qui est le tribunal de commerce pour casser toutes ces décisions. Et le tribunal de commerce, il faut savoir, c'est que c'est un tribunal qui n'est pas, où ne siègent pas des juges professionnels, mais des juges qui sont des commerciaux élus par leur père. Donc c'est aussi une cour qui est dans un sens plus basse en théorie. Et à la fois, le procès en appel a fait que cette décision, la décision supplémentaire d'interdire les personnes à entrer, a été annulé, mais ça n'impactait pas l'interdiction des stands, et le tribunal de commerce a jugé bon de dire que les stands devraient être réautorisés aussi. Quoi qu'il en soit, cette décision judiciaire-là, elle est questionnable du point de vue de la loi, parce que le tribunal de commerce n'a pas, selon la hiérarchie des normes, à statuer sur une décision de l'État. Et d'autre part, dans les faits concrets, les stands israéliens n'ont jamais pu être réinstallés parce que cette décision est arrivée 3 jours au milieu du salon. Et donc, bien sûr, ils n'ont pas réinstallé les stands pendant la nuit. Et donc, jusqu'à la fin de la semaine de Rosatory, il n'y a eu aucun stand israélien. Et éventuellement, pendant les 2 derniers jours, des personnels ont pu participer au salon. Mais étant donné que ça avait été annulé plusieurs jours avant, il est douteux qu'il y ait beaucoup eu de passages de commerçants israéliens pendant le salon.
On a un allié de poids. C'est quand même un homme politique au pouvoir en France qui a dit « Honte à tous ces pays qui appellent un cessez-le-feu et vendent des armes à Israël. Nous, la France, c'est pas le cas. C'est Macron. » Donc même Macron, dans ses bons jours, il nous dit que la France n'a pas d'armes à Israël. Donc nous, on est quand même difficilement attaquable sur cette question-là, puisque nous, on dénonce les boîtes françaises. Quoi. Donc c'est un truc. Et après, sur le soutien à la Palestine, moi j'ai une autre anecdote. Le jour où j'ai imprimé des tracts, dans ma petite imprimée de quartier, j'ai jamais allé avant. Le mec, il dit, c'est en soutien à la Palestine. Je fais, ouais. Il fait, mais écoute, c'est gratuit. Et moi aussi, ça m'avait hyper ému parce que c'est tout petit, tu t'y attends pas. En fait, c'est le soutien à la Palestine, c'est partout. Et quand tu vas coller, bah oui, tu les gens viennent te voir. Quoi. Donc c'est hyper important. Et oui, les médias, ils font tout, les opinions pour nous dire, ce que vous faites, ça ne sert à rien. Donc c'est le découragement, c'est ce qui est véhiculé tous les jours, pour dire ça sert à rien, c'est foutu. Ce qui se passe en Palestine, c'est une catastrophe naturelle, on ne peut rien y faire. Ça c'est le discours des médias, quoi. Vous avez les unes de journaux, moi je fais ça tous les matins, quand tu vois des personnes qui, au Liban, sont sur une bagnole et regardent au lointain, t'as l'impression qu'il y a eu un tsunami et que vraiment la vague est sortie d'une part, quoi. En fait non. Donc tout le but de cette campagne, c'est de se dire en fait, on peut agir là où on habite, concrètement. Oui, les Gazaouis, ils meurent de faim, ils meurent de maladie, mais ils se font buter par des armes. Et ces armes, elles ont des composants, ils sont made in France. Et ils sont fabriqués vraiment à Duny, je ne sais plus, bon, dans le 19e et compagnie. Quoi. Donc vraiment, on peut se sentir fort parce qu'on a une bonne réception de la part des gouvernements, les syndicats ils réagissent bien aussi, et malheureusement, cette campagne elle repose sur une poignée de militants en France. À une poignée qui, 10 groupes locaux maximum, a réussi à faire flancher Macron et lui faire dire, et lui faire corriger, et lui faire bloquer ses transpondeurs. Donc imaginez si demain, j'ai tous les comités de BDS, toutes les AFPS et tous les UP qui font cette campagne un peu régulièrement, une fois toutes les 2 semaines, Macron, on le plie en quelques semaines. Moi, je suis vraiment là pour vous dire, cette campagne, c'est pas un truc intellectuel, si vous sentez impuissant, rejoignez-nous. Voilà, bon appétit tout le monde.
Pour terminer cette émission en lien avec ce que nous venons d'entendre aujourd'hui sur la vente d'armes en direction d'Israël, une journée nationale d'action Stop Arming Israel aura lieu ce jeudi 30 janvier 2025. En région parisienne, un rendez-vous de tractage auprès des travailleurs et travailleuses de l'armement aura lieu devant Thalès et Safran à Massy. Et le rendez-vous sera à 7h30 à Massy-Palaiseau au RERB et ça sera la sortie 1 Massy Atlantis. Donc action légale mais contrôle de police possible, donc prévoir une pièce d'identité. Donc voilà pour ce rendez-vous et nous on vous souhaite une très bonne journée et on vous retrouve pour une prochaine émission de l'actualité des luttes.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. Sure. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutes.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutes.info.